Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 11 sur 24. Un oncle d'Émilie, un vice-amiral dont la fortune venait de s'augmenter d'une vingtaine de mille livres de rente par suite de la loi d'indemnité, vieillard septuagénaire en possession de dire de dures vérités à sa petite nièce, de laquelle il raffolait, s'écria pour dissiper l'aigreur de cette conversation « Ne tourmentez donc pas ma pauvre Émilie! Ne voyez-vous pas qu'elle attend la majorité du duc de Bordeaux ?» Un rire universel accueillit la plaisanterie du vieillard. « Prenez garde que je ne vous épouse, vieux fou !» repartit la jeune fille, dont les dernières paroles furent heureusement étouffées par le bruit. « Mes enfants, dit Madame de Fontaine, pour adoucir cette impertinence, Émilie, de même que vous tous, ne prendra conseil que de sa mère. « Oh mon Dieu, je n'écouterai que moi dans une affaire qui ne regarde que moi !» dit fort distinctement Mademoiselle de Fontaine. Tous les regards se portèrent alors sur le chef de famille. Chacun semblait être curieux de voir comment il allait s'y prendre pour maintenir sa dignité. Non seulement le vénérable Vendéen jouissait d'une grande considération dans le monde, mais encore, plus heureux que bien des pères, il était apprécié par sa famille dont tous les membres avaient su reconnaître les qualités solides qui lui servaient à faire la fortune des siens. Aussi était-il entouré de ce profond respect que témoignent les familles anglaises et quelques maisons aristocratiques du continent aux représentants de l'arbre généalogique. Il s'établit un profond silence et les yeux des convives se portèrent alternativement sur la figure boudeuse et altière de l'enfant gâté et sur les visages sévères de monsieur et de madame Fontaine. « J'ai laissé ma fille Émilie maîtresse de son sort », fut la réponse que laissa tomber le comte d'un son de voix profond. Les parents et les convives regardèrent alors Mademoiselle de Fontaine avec une curiosité mêlée de pitié. Cette parole semblait annoncer que la bonté paternelle s'était lassée de lutter contre un caractère que la famille savait être incorrigible. Les gendres murmurèrent et les frères lancèrent à leurs femmes des sourires moqueurs. Dès ce moment, chacun cessa de s'intéresser au mariage de l'orgueilleuse fille. Son vieil oncle fut le seul qui, en sa qualité d'ancien marin, osa courir déborder avec elle et essuyer ses boutades, sans être jamais embarrassé de lui rendre feu pour feu. Quand la belle saison fut venue après le vote du budget, cette famille, véritable modèle des familles parlementaires de l'autre côté de la Manche, qui ont un pied dans toutes les administrations et 10 voix aux communes, s'envola, comme une nichée d'oiseaux, vers les beaux sites donnés d'Antony et de Châtenay. L'opulent receveur général avait récemment acheté dans ses parages une maison de campagne pour sa femme qui ne restait à Paris que pendant les sessions. Quoique la belle Émilie méprisât la roture, ce sentiment n'allait pas jusqu'à dédaigner les avantages de la fortune amassée par les bourgeois. Elle accompagna donc sa sœur à sa villa somptueuse, moins par amitié pour les personnes de sa famille qui s'y réfugièrent, que parce que le bon ton ordonne impérieusement à toute femme qui se respecte d'abandonner Paris pendant l'été. Les vertes campagnes de Sceaux remplissaient admirablement bien les conditions exigées par le bon ton et le devoir des charges publiques. Comme il est un peu douteux que la réputation du bal champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l'enceinte du département de la Seine, il est nécessaire de donner quelques détails sur cette fête hebdomadaire qui, par son importance, menaçait alors de devenir une institution. Les environs de la petite ville de Sceaux jouissent d'une renommée due à des sites qui passent pour être ravissants. Peut-être sont-ils fort ordinaires et ne doivent-ils leur célébrité qu'à la stupidité des bourgeois de Paris, qui, au sortir des abîmes de Moëlon, où ils sont ensevelis, seraient disposés à admirer les plaines de la Beauce. Cependant, les poétiques ombrages donnés, les collines d'Antony et la vallée de Bièvre étant habitées par quelques artistes qui ont voyagé, par des étrangers, gens fort difficiles, et par nombre de jolies femmes qui ne manquent pas de goût, il est à croire que les Parisiens ont raison. Mais Sceaux possède un autre attrait non moins puissant sur le Parisien. Au milieu d'un jardin d'où se découvrent de délicieux aspects, se trouve une immense rotonde ouverte de toutes parts, dont le dôme, aussi léger que vaste, est soutenu par d'élégants piliers. Ce dé champêtre protège une salle de danse. Il est rare que les propriétaires les plus collémontés du voisinage n'émigrent pas une fois ou deux pendant la saison vers ce palais de la Terpiscore, villageoise, soit en cavalcade brillante, soit dans ces élégantes et légères voitures qui saupoudrent de poussière les piétons philosophes. L'espoir de rencontrer là quelques femmes du beau monde et d'être vues par elles, l'espoir moins souvent trompé d'y voir de jeunes paysannes aussi rusées que des juges, fait accourir le dimanche, au bal de Sceaux, de nombreux essaims de clercs d'avoués, de disciples d'Esculape et de jeunes gens dont le teint blanc et la fraîcheur sont entretenus par l'air humide des arrière-boutiques parisiennes. Aussi, bon nombre de mariages bourgeois se sont-ils ébauchés au son de l'orchestre qui occupe le centre de cette salle circulaire. Si le toit pouvait parler, que d'amour ne raconterait-il pas ? Cette intéressante mêlée rendait alors le bal de Sceaux plus piquant que ne le sont deux ou trois autres bals des environs de Paris sur lesquels sa rotonde, la beauté du site et les agréments de son jardin lui donnaient d'incontestables avantages.